Les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Aujourd'hui est donc ce que l'on nomme souvent le Vesak, l'anniversaire du Bouddha, la principale fête bouddhiste. Tout de suite, pour dissiper des possibles confusions, il y a plusieurs dates pour le Vesak. Certaines traditions le fêtent le jour de la pleine lune du mois de mai, d'autres sur la pleine lune du mois de juin. Bon. Comme vous l'avez compris, dans notre cas, c'est la deuxième version. Le Vesak est l'anniversaire de l'éveil du Bouddha et aussi de son départ de ce monde, ce que l'on nomme son parinirvana. À cette occasion, il serait tout à fait de circonstance d'entrer dans l'intelligence de qui est le Bouddha et de ce qu'est un Bouddha. Bouddha, d'abord, est un mot sanskrit. Dans son sens originel et racine, il signifie le connaissant, celui qui sait ou qui a la connaissance, qui a accédé à l'état de connaissance, qui s'est délivré de l'ignorance. En tibétain, Bouddha se dit Sangye. Sangye. Et ce mot Sangye s'interprète avec ces deux syllabes. Sang a le sens de dissiper ou d'avoir dissipé, d'avoir purifié. Et s'interprète comme pour désigner l'état de Bouddha, comme étant cet état en lequel ignorance, illusion et passion sont définitivement dissipées, dissoutes, purifiées. Et la deuxième syllabe, dié, a le sens d'épanoui et signifiant que il est le Bouddha ou cet état d'éveil, celui en lequel toutes les qualités se sont épanouies à la perfection. Et nous verrons, il y a différentes qualités d'un éveillé, d'un Bouddha. Et il y a aussi différents voiles qui sont purifiés, dissipés. Et de faire remarquer que Bouddha Sangye a ce sens de, on pourrait dire, tout pur et tout épanoui. Celui, celle en qui tous les voiles, alors on en distingue deux, on en distingue quatre, on peut en distinguer de différentes façons, mais la plus simple, en laquelle le voile des passions, le voile des illusions s'est complètement dissous, dissipé, et en lequel toutes les qualités du double développement se sont parfaitement épanouies. Donc, c'est l'état de perfection Bouddha, Sangye, l'éveillé, peut être compris de différentes façons. Et il est compris de différentes façons dans différents contextes et dans différentes traditions. Il y a une tradition qui voit le Bouddha comme l'homme parfait, l'humain qui a accédé à la perfection ultime, qui s'est éveillé à la réalité, qui s'est libéré des passions et des illusions. Il est aussi une perspective qui envisage le Bouddha dans une dimension que l'on pourrait dire, merci, que l'on pourrait dire absolue, comme l'état de perfection absolue, et qui envisage le Bouddha dans une réalité omniprésente et absolue. Dans une forme, ces deux perspectives qui peuvent sembler certaines fois différentes, voire même peut-être contradictoires, en fait ne le sont pas du tout. Et on peut, dans une formule, dire que le Bouddha est vrai homme et vrai absolu. Il est à la fois l'humain qui a accédé à la perfection et qui, dans cette perfection, a réalisé l'absolu. L'absolu non-dualité. Le Bouddha a commencé une vie princière, puis ayant découvert la réalité de la souffrance, l'ayant vu, a choisi de renoncer à son avenir princier, dont il avait reçu toute l'éducation à laquelle il avait excellé, et de partir en quête de la réalité, en quête de l'éveil, dans l'aventure essentielle de la vie, la quête spirituelle fondamentale. Pendant 6 ans, il pratique une ascèse. Il rencontre d'abord des maîtres de son époque avec lesquels il étudie. Il atteint vite les niveaux d'expérience ultimes dans la tradition de ses maîtres, tout en comprenant que ces expériences, qui sont les plus subtiles auxquelles la conscience puisse accéder, ne sont pas véritablement ultimes l'ultime éveil. Et c'est là qu'il commence cette période d'ascèse qui fut extrême. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que l'ascèse extrême et les extrêmes, quels qu'ils soient, et les extrémismes, quels qu'ils soient, ne sont pas la voie. Et c'est en s'asseyant sous l'arbre de la Bodhi qu'il atteint le parfait et plein éveil, l'arbre de la Bodhi à Bodh Gaya, quand c'était il y a, pour faire simple, 2500 ans. Là aussi, suivant les calendriers, il y a un peu plus de 2550, ou un petit peu moins suivant d'autres calendriers. Dans cette ultime assise, il vit directement la nature de la réalité, la nature de l'esprit, la nature de l'esprit, expérience, cognition. Et c'est là qu'il se délivra ultimement des derniers voiles, des derniers obscurcissements, et accéda à la pleine et parfaite réalisation de ce que l'on nomme aussi la claire lumière ou la réalité fondamentale. Ayant découvert cette réalité en cette expérience d'éveil, pendant 8 semaines, le Bouddha resta autour de cet arbre de la Bodhi. Ne sachant s'il était opportun de transmettre quoi, voyant que cette réalité qu'il avait découverte était une réalité difficile à comprendre. Mais exhorté par de grands dieux et voyant que l'esprit de certains était moins obscurci ou voilé que d'autres, il se mit, il prit la décision de transmettre, d'enseigner. Et il pensa d'abord à ses anciens compagnons d'ascèse, qu'il retrouva à Sarnath, un endroit qui se nomme le parc des gazelles. Et c'est là, ses anciens compagnons d'ascèse, qui reconnurent sa réalisation, qu'il enseigna, qu'il donna son premier enseignement sur les 4 nobles réalités. La réalité du mal-être, de la disharmonie, de son origine, de sa possible cessation, guérison, et de la voie qui conduit à cette cessation, à cette guérison de la maladie qui est le mal-être et la souffrance, voie qui se résume dans le triple apprentissage ou le triple entraînement qui est celui de la discipline, de l'expérience profonde et de la compréhension. Que l'on peut dire aussi en deux mots comme compassion et sagesse, amour et sagesse. Pendant le Bouddha avait alors grosso modo 35 ans. Et il va, pendant tout le reste de sa vie, pendant plus d'une quarantaine d'années, il va pérégriner dans l'Inde centrale, le Bagada, et y enseigner. Au fil des situations, au fil des rencontres, et les enseignements du Bouddha sont ainsi relatés dans ce que l'on nomme les sutras. Il y a dans un recueil de textes qui résume ou condense tous les enseignements du Bouddha, la parole du Bouddha, parole de différentes façons. On le nomme en tibétain le Kangyur, il y a 108 volumes. Ce sont les ouvrages qui sont dans le grand temple, vous avez peut-être vu à droite, à gauche. Et dans le Kangyur, ce sont les paroles du Bouddha, et traduites dans leur version tibétaine, traduites à partir du sanskrit. Il y a trois, ce qu'on appelle des corbeilles ou des recueils. Il y a un recueil sur la discipline, ce que l'on nomme le Vinaya. Il y a le recueil des sutras qui relatent toutes les épisodes et situations en lesquels le Bouddha a enseigné. Il y a toutes sortes de sutras sur les différents thèmes. Et le troisième recueil, la troisième corbeille, se nomme l'Abhidharma. L'Abhidharma, c'est ce que l'on peut nommer la phénoménologie, ou un exposé de la cognition, un exposé des modalités de l'esprit et de la perception des phénomènes, phénoménologie. C'est la partie la plus théorique, disons, ou de l'enseignement, qui est une présentation de la réalité et du mode de connaissance dans lequel nous opérons avec ces illusions et le processus possible de libération de l'illusion et d'accession à l'expérience véritable. Donc c'est une phénoménologie opérative ou libératrice, si l'on veut. Donc il y a tous ces enseignements du Bouddha et à la fin de sa vie, en un endroit qui se nomme Kushinagara, le Bouddha s'éteint, il entre en parinirvana et c'est à la fois ce parinirvana, cette extinction de sa présence dans le monde physique et son éveil à Bodh Gaya, ces deux anniversaires que l'on célèbre dans le Vesak. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a ces deux perspectives pour comprendre le Bouddha, plus humain, plus absolue. Je vous encourage à lire la vie du Bouddha. Il y en a différentes versions. Une version très inspirante a été écrite par Thich Nhat Hanh. Il y a des versions traditionnelles plus anciennes avec les 12 œuvres et les 12 étapes de la vie d'un Bouddha. Elles existent en de nombreuses versions. Elles existent aussi dans le Shedra et dans ses documents. C'est une excellente source que je vous recommande. La différence entre la vision humaine et la vision absolue du Bouddha est une différence de perspective entre une perspective que l'on pourrait dire plus physique et une perspective que l'on pourrait dire plus spirituelle. Dans la vision de la voie universelle, les deux perspectives se trouvent résumées dans ce que l'on nomme les trois dimensions d'un Bouddha, les trois dimensions de l'éveil d'un Bouddha. Et l'on peut envisager le Bouddha comme personne éveillée, personne éveillée qui a réalisé la nature éveillée, la nature de l'esprit, la nature de la réalité, que l'on nomme aussi cette nature éveillée, la nature de Bouddha. Et les deux se trouvent imbriqués dans cette intelligence des trois dimensions de l'éveil. Trois dimensions qui peuvent se comprendre en partant de notre réalité aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui constitués de trois dimensions qui sont notre corps, notre parole et notre esprit. Corps, souffle, esprit, souffle et parole allant de pair, allant ensemble. Et ces trois plans d'existence, corps, parole, esprit, qui sont les nôtres aujourd'hui dans notre état habituel, au moment de l'éveil, deviennent les corps, paroles, esprit d'un Bouddha, les corps, paroles, esprit d'un éveillé. L'esprit qui est aujourd'hui le mien, avec les caractéristiques de la conscience habituelle, se trouve libéré et transmuté en l'esprit éveillé d'un Bouddha que l'on nomme le Dharmakaya ou le corps absolu. Cet esprit éveillé transcende nom, forme, caractéristique et il a une qualité qui embrasse et pénètre toute chose, qui est infuse et diffuse, omniprésente et en ce sens absolue. Et le souffle ou parole éveillée d'un Bouddha est la dimension de l'expérience parfaite, ce qu'on nomme le corps d'expérience parfait, et le corps physique ou le corps manifesté, actuel d'un Bouddha, et ce que l'on nomme son corps d'émanation ou en sanskrit nirmanakaya. Ces trois corps d'un Bouddha ou ces trois dimensions de l'éveil se nomment dharmakaya, sambhogakaya, nirmanakaya. C'est un petit peu rapide et c'est peut-être un petit peu difficile dans une première approche, mais il y a dans ces trois dimensions de l'éveil aussi bien la réalité physique d'une présence historique et géographique que la dimension absolue d'une présence omniprésente. Un Bouddha a des qualités qui sont inconcevables, des qualités de l'esprit, des qualités de la parole, des qualités de son corps. Pour son esprit, des qualités d'intelligence, de connaissance, de la nature, de la réalité, de sa manifestation, des qualités d'amour, d'amour compatissant, des capacités d'aide, de refuge. Sa parole a aussi 60 qualités. Alors pour les qualités de l'esprit, il y en a beaucoup d'énumérations. Je vous encourage et recommande à lire La Voix du Bouddha sur les qualités d'un Bouddha. Sa parole a 60 qualités. Un énoncé permet d'être entendu par différentes personnes selon leur réceptivité et ainsi d'être compris par tous en fonction de ses capacités en un seul énoncé et une voix qui est mélodieuse, qui est harmonieuse et qui satisfait l'entente de chacun. Son corps a aussi des qualités remarquables. Donc, le point important est d'entrer dans l'intelligence de ces qualités de l'éveil, de ces qualités d'un Bouddha, qui peuvent, les comprenant, être une source d'inspiration et une source d'aspiration, et en même temps, c'est en nous tournant vers l'éveil et toutes ces qualités que nous trouvons refuge, c'est-à-dire protection par rapport aux illusions, aux passions, et que commence la voie que l'on entre dans la voie de l'éveil. Le dharma, l'enseignement de réalité, qui est la parole du Bouddha. Qu'est-ce que le dharma ? Le Bouddha n'a rien écrit de son vivant. Il n'a écrit aucun texte. Il a parlé, suivant les circonstances, une parole harmonieuse qui dit la réalité dans les différentes circonstances qui se sont présentées et qui a eu ainsi une action libératrice, une action de bonté. C'est ainsi que s'est constitué le dharma et contenu dans sa version initiale, dans ses paroles du Bouddha, le Kangyu en 108 volumes dont je vous parlais tout à l'heure. Et qui s'est développé ensuite des nombreux commentaires, aussi bien des maîtres indiens que des maîtres tibétains et d'autres traditions. Dans la tradition tibétaine, il y a le Tengyur et les commentaires des maîtres indiens. Et là, il y en a, dépend des versions, mais 160 volumes. Et il y a encore tous les écrits et commentaires ultérieurs des maîtres tibétains. Le Dharma, avec sa réalité scripturaire, et surtout le Dharma en tant qu'expérience. Le Dharma, l'enseignement du Bouddha, n'est pas une information, n'est pas une transmission conceptuelle, intellectuelle, même s'il y a clairement une dimension conceptuelle et intellectuelle et une dimension scripturaire très importante, mais le Dharma, dans ce qu'il a et ce qu'il est fondamentalement, est une expérience, une réalisation de la réalité dans une expérience directe, immédiate, inconceptuelle. Donc, on distingue dans le Dharma Dharma de la réalisation et le Dharma scripturaire. Et ceux qui suivent et pratiquent le Dharma se nomment le Sangha, la communauté des pratiquants, la société des pratiquants. Et c'est ainsi qu'il y a Bouddha, Dharma, Sangha, les trois joyaux, qui sont aussi, d'une certaine façon, les trois dimensions de l'éveil. Bouddha est l'esprit, Dharma est la parole, Sangha est le corps. Donc, l'anniversaire du Bouddha, Vesak, est l'occasion d'honorer le Bouddha, de l'honorer par notre pratique, par l'offrande de notre pratique et aussi souvent par différentes autres formes d'offrande. Cette année, nous n'avons pas eu beaucoup de préparation, mais nous essaierons de faire mieux l'année prochaine. En tout cas, il y a notre pratique, et c'est, si elle est authentique, la plus belle offrande qui soit. C'est aussi l'occasion pour accomplir tout ce qui est positif et vertueux. La conjoncture de la pleine lune et du Vesak amène, je le disais tout à l'heure, un facteur multiplicateur, c'est 100 000 fois, voire 1 million de fois plus bénéfique, donc c'est incitatif. Mais c'est donc aussi, je pense, le bon moment pour annoncer que j'ai bien entendu la requête qui m'a été faite et refaite pour la transmission des préceptes. Et je pense que ce serait maintenant le moment, dans le cours de la semaine prochaine, donc en fonction de l'agenda d'Avalon, et nous allons trouver une date propice, un jour propice. Je vais consulter la mode vénérable. Nous allons voir. Et la pratique des préceptes et la pratique de la discipline. Tout à l'heure, je vous mentionnais les trois entraînements. La discipline. Une discipline de vie, une discipline de santé. La discipline n'est pas, dans la tradition du Bouddha, celle d'arguments d'autorité, mais de principes de santé. On évite les actes, les comportements pathogènes, on cultive ceux qui sont facteurs de santé et de bien-être, de bonheur, tant pour autrui que pour soi-même. Cette discipline peut être envisagée comme résumée dans les cinq préceptes. Je ne vais pas les développer ce soir, mais je les ai présentés il n'y a pas longtemps. Cette discipline peut être résumée aussi dans la règle d'or, dans la règle d'or de l'éthique universelle. Ne fais pas à autrui la violence dont tu ne voudrais être victime. Une règle de non-violence, une règle de bonté, une règle d'amour, de compassion. Une règle naturelle en un état d'empathie, de participation, de communion. Et le deuxième apprentissage est l'expérience profonde, pratique de la méditation, pratique de la présence attentive, de la présence ouverte. Et le troisième apprentissage est celui de la compréhension de la réalité, la compréhension de ce qui est tel que c'est dans l'expérience directe de la présence ouverte. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents points et cette entrée dans la discipline par la prise des vœux, des préceptes, est très bien et importante aussi pour tous ceux qui se préparent à la retraite de 3 ans, ou pour simplement tous les pratiquants. Dans les 5 préceptes, il peut y avoir le célibat. Il peut y avoir aussi, autrement, si l'on vit en couple, la stabilité. La stabilité. Donc, c'est dire que tout un chacun, chacune, chacun peut les prendre et c'est toujours une source de vertu, surtout que l'on a peut, suivant les circonstances, prendre des 5, ceux que l'on est vraiment sûr de pouvoir garder. Donc voilà, ces quelques mots sur le Bouddha, le Vesak, le triple entraînement et son inscription prochaine dans notre agenda. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions que vous auriez aimé que nous abordions maintenant?
Bonsoir Rinpoche.
Bonsoir.
Vous pouvez nous rappeler les circonstances de la mort du Bouddha?
Les circonstances de la mort du Bouddha, différentes interprétations. Mais il était très âgé, il devait avoir 85 ans, et il aurait mangé quelque chose qui ne lui a pas réussi. Ça, c'est une version. Mais il avait aussi annoncé qu'il allait quitter ce monde. Et c'est le devenir de tout Bouddha dans l'expression de ses œuvres et de sa carrière d'éveillé, aussi que de quitter son corps. Et donc, c'est ce départ qu'il a manifesté aussi en l'annonçant et en répondant avant son départ aux dernières questions de ses disciples. Voilà. Il y a d'autres versions encore. Oui.
Rinpoche, habituellement, quelles sortes de pratiques sont faites pendant le Vesak? Ça dépend peut-être des endroits, des lieux ou...
On honore le Bouddha par des pratiques d'hommage, de souhait, des prières de souhait et des offrandes pour l'honorer. Comme lors d'un anniversaire, on peut avoir, voilà, et c'est peut-être une fête joyeuse de célébration de l'éveil, et en accomplissant particulièrement tout ce que l'on peut de positif et de vertueux. Et si l'on peut même prendre les préceptes particulièrement le jour du Vesak et avoir une attention particulière, une discipline particulière, une méditation pratique particulière. Et cela peut se faire de différentes façons, et il y a aussi des rituels d'hommage, de vénération au Bouddha, des rituels de Sakyamuni, par exemple. Le Muni des Sakya, le silencieux. Et Sakya est le nom de famille ou le nom de, du clan des Bouddhas. Du Bouddha Sakyamuni. Siddhartha dans sa jeunesse. Je vous propose un petit moment de contemplation. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonne soirée.